L'heure des informations avec Claire Viget.
Bonjour. Un atterrissage imprévu de trois imposants bombardiers d'eau à l'aéroport des Zeppelatures. C'est arrivé samedi après-midi. Le contrôleur aérien présent à ce moment-là nous raconte. Le canton de Neuchâtel durcit sa loi sur l'enseignement à domicile. Les familles qui souhaitent scolariser leur enfant à la maison devront obtenir une autorisation de l'État. Pour une minorité du Grand Conseil, le cadre proposé est incomplet et insuffisant. Ilane Pitié veut confirmer, l'athlète des Hauts-Genevais commencera sa saison de ski de fond au début du mois de décembre. Après avoir découvert la Coupe du Monde l'an passé, Ilane Pitié veut désormais s'établir à ce niveau. Frais et gris sous la couverture nuageuse, ensoleillé et doux au-dessus, les thermomètres indiqueront de 13 à 16 degrés au mieux cet après-midi sur la région. Des avions plus imposants que d'habitude ont atterri samedi après-midi à l'aéroport des Zeppelatures à La Chaux-de-Fonds. Trois bombardiers d'eau ont dû se dérouter en raison de la météo. Les pilotes ont fait le plein et sont repartis le lendemain. L'aéroport n'a pas pu nous renseigner sur leur mission, mais on sait que les appareils venaient de France et volaient vers l'Allemagne. Le contrôleur aérien en poste à ce moment-là a appris l'arrivée imprévue des avions 10 minutes avant leur atterrissage. Un coup de chaud pour lui, Nicolas Tendero nous raconte.
J'étais dans la tour de contrôle quand j'ai reçu un message sur notre interface aéronautique provenant de Reims, annonçant l'arrivée d'un aéronef en déroutement initialement prévu pour l'Allemagne. Je me suis renseigné via Internet sur le type d'appareil que c'était et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il s'agissait d'un bombardier d'eau. J'ai pu avoir un premier visuel de cet appareil et à ma grande surprise, il n'y en avait pas un, mais 3 appareils de cette compagnie Cargolux.
Et alors là, vous avez combien de secondes pour réagir et communiquer par radio ?
La chance que j'avais ce jour-là, c'est que le trafic était assez faible. Donc j'ai eu assez de temps, de l'ordre de la minute. À partir du moment où je les ai vus, 4 minutes après, ils étaient posés. Donc, j'ai pu faire une séparation standard, espacer les pilotes à l'atterrissage, de façon que les avions atterrissent de manière sûre et ordonnée.
Les avions qui se déroutent pour atterrir à La Chaux-de-Fonds au-dessus du brouillard, ça arrive presque quotidiennement selon l'aéroport des Zeppelatures. Et pour la petite histoire, eh bien, il y avait du public ce jour-là puisque le salon des vins Lâche-moi la grappe se déroulait juste à côté. Jusqu'ici, une simple déclaration suffisait pour faire l'école à la maison. Désormais, il faudra une autorisation du canton. Le Grand Conseil neuchâtelois a durci sa loi sur l'enseignement à domicile ce matin. Ce système d'autorisation impliquera également l'instauration d'une surveillance et d'un suivi des élèves. Le projet a suscité des débats animés en commission. Cette dernière a donc modifié la première mouture du Conseil d'État. Des amendements qui ont permis l'acceptation du projet de loi à une large majorité de 88, 5 non et 13 abstentions. La députée verte libérale Mireille Tissot-Daguet y était favorable. Elle nous explique pourquoi.
Alors il n'y a pas de réel gros problème, mais pour les quelques cas qui sont problématiques, on avait besoin d'un garde-fou pour que le canton puisse avoir une vision du niveau et peut-être des problématiques qu'il peut avoir lors d'un enseignement à domicile.
Il était aussi important pour une grande majorité du Grand Conseil que finalement l'autorisation se base sur le projet pédagogique et non sur la personne.
Oui, parce que en fait ça peut être pas forcément qu'une seule personne. On a vu à travers les travaux de commission que en fait ça peut prendre vraiment diverses formes. Cette école à domicile, donc ça peut être lié à des voisins, des grands-parents, en partie avec les parents. Donc ça doit être vraiment un projet global qui doit être pris en compte et pas seulement juste une personne référente qui fait l'école à domicile.
Une partie des membres des groupes PS et Verpop se sont abstenus ou ont refusé l'objet. Si la nécessité de légiférer n'a pas été remise en cause, le projet voté comporte des lacunes aux yeux de la députée socialiste Yasmina Produit.
Je pense qu'il est important de légiférer pour qu'un cadre soit connu et reconnu pour tout le monde, ceux qui font l'école à domicile et ceux qui souhaiteraient faire l'école à domicile. Par contre, le cadre proposé n'est pas assez complet, il est insuffisant. Il donne une coquille pour donner une autorisation ou plutôt pour retirer une autorisation. Mais sur quels critères? Quelles seront les fréquences de ces contrôles? Quel sera le niveau demandé de ces contrôles par rapport au père? Toutes ces questions reste encore en suspens.
Un dossier réalisé au château par Jean-Paul Picci. Le chômage accuse une légère hausse en octobre dans le canton de Neuchâtel par rapport au mois précédent. Il est passé de 3,9 à 4%. Cela représente 27 chômeurs de plus qu'en septembre pour un total de 3514. Au niveau national, le taux est resté stable à 2,5%. Une hausse par contre de 40% et qu'il leur reste en travers de la gorge. Les étudiants de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale verront leur taxe semestrielle passer de 500 à 700 francs dès la rentrée 2025. Actuellement, les taxes rapportent 20 millions de francs à la HESSO sur un budget annuel total de 600 millions. Avec la hausse, le montant passera à 28 millions. Pour le comité gouvernemental qui regroupe les représentants des six cantons fondateurs de l'institution, dont Neuchâtel, il est normal que les étudiants prennent leurs responsabilités en participant eux aussi à la hausse des coûts de formation. Président du comité, Christophe Darguebelet ne craint pas de perdre des effectifs.
Non, ça ne va pas se produire. Aujourd'hui, la HESSO est une école qui est reconnue sur le plan national et international. Elle a 20 000 étudiants. Ses études sont de grande qualité. L'essentiel de ces montants vont bénéficier aux écoles elles-mêmes et par conséquent à la qualité de l'enseignement. Donc je pense que c'est un investissement qui est raisonnable. Et les étudiants doivent aussi faire leur part dans ce contexte-là où les pouvoirs publics payent quand même l'essentiel de la facture.
Pour une partie des étudiants, cette décision est dangereuse. Elle rend l'accès à la HESSO plus compliqué. Une forme d'élitisme, explique Ruth, étudiante à la Haute École Santé de Fribourg.
Globalement, c'est une mesure que seules les personnes les plus privilégiées pourront se permettre de vivre sans avoir de grosses modifications dans leur train de vie. En plus de ça, nous voyons par exemple dans les professions de la santé, dans les professions du social et dans tout un tas d'autres de professions, une énorme pénurie. Et augmenter ces taxes ne va que augmenter ce problème de pénurie.
Une pétition contre cette décision circule. Elle a déjà réuni plus de 3000 signatures et les sections romandes du Parti Socialiste s'engagent à lutter contre toute hausse de taxes dans les hautes écoles intercantonales. À Neuchâtel, une première motion a été déposée au Grand Conseil. 10 à 20% des élèves se disent victimes de harcèlement scolaire en Suisse, soit 2 à 4 jeunes par classe. Et les chiffres sont en augmentation selon de récentes études. Cette problématique est de la compétence des cantons. À Neuchâtel, les politiciens s'en préoccupent. 4 motions interparties ont été déposées début septembre au Grand Conseil. À Berne, la question du harcèlement au sens plus large est aussi débattue. La conseillère aux États neuchâteloises Verte, Céline Vara, défend cette thématique avec notamment une victoire l'année passée.
Et à l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle le revenge porn, l'article 197 du code pénal, c'est le fait d'être puni lorsque l'on publie ou lorsqu'on le remet à quelqu'un, donc on rend public, on dit généralement, des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne qui est reconnaissable. Et puis, alors là, on parle de contenus à caractère sexuel, mais le Parlement continue. Et dernièrement, tout récemment, en commission des affaires juridiques, j'ai obtenu encore une petite victoire. J'espère qu'elle va aller jusqu'au bout. C'est le stalking. C'est un nouvel article du code pénal qui lutte cette fois-ci vraiment contre le harcèlement de manière générale. La commission des affaires juridiques l'a accepté. Ce sera en décembre que le Conseil des États devra se prononcer. Et puis si le Conseil des États l'accepte, je suis rapporteure, je me réjouis, eh bien on va pouvoir aller de l'avant avec cette disposition.
Céline Navarra était l'invitée d'une matinale spéciale consacrée au harcèlement scolaire. D'autres invités ont défilé dans nos studios. Toutes ces interventions sont à retrouver en vidéo sur rtn.ch. L'Amérique décide aujourd'hui qui de Kamala Harris ou de Donald Trump entrera à la Maison-Blanche. Indécise jusqu'à la dernière minute, la campagne a été maillée de tensions inouïes. Sur la côte Est, les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures ce matin, ce qui correspond à midi ici. Des millions de personnes vont ajouter leur voix aux plus de 80 millions de bulletins déjà déposés de manière anticipée ou envoyés par voie postale. Il est impossible de savoir s'il faudra des heures ou des jours de dépouillement pour départager la vice-présidente vice-présidente démocrate et l'ancien dirigeant républicain. Et comme le reste du monde, la Suisse et la Berne fédérale ont les yeux rivés sur l'élection américaine. Un sondage mené par l'Institut Gallup repris ce matin par le groupe Tamedia montre que 61% des personnes interrogées en Suisse soutiennent Kamala Harris et 25% Donald Trump. Le soutien au candidat républicain est plus marqué en Suisse qu'en France, en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Du côté des parlementaires fédéraux, on préférerait que la candidate démocrate l'emporte. À Berne, Serge Jubin.
Il n'y a pas eu de sondage digne de ce nom auprès des 246 membres du Parlement fédéral. On peut toutefois extrapoler diverses prises de positions individuelles pour constater que Donald Trump a des soutiens à l'UDC, quelques-uns au PLR, pour des raisons économiques. Mais qu'une assez large majorité lui préfère la démocrate Kamala Harris pour éviter l'imprévisibilité, à l'instar du socialiste neuchâtelois Baptiste Urny.
On serait dans une grande stabilité de la politique internationale et sécuritaire, ce qui signifie, pour ce qui préoccupe le plus la Suisse aujourd'hui peut-être, un soutien continu à l'égard de l'Ukraine et donc pas un effondrement du gouvernement ukrainien faute de soutien international.
Même s'il reconnaît que les intérêts économiques de la Suisse pourraient faire pencher pour Donald Trump, le président de l'association parlementaire Suisse-États-Unis, Damien Cottier, estime que les valeurs de la démocratie doivent primer.
Il y a toute la question de l'équilibre du monde, de la sécurité, de la stabilité, de la démocratie. Là, probablement que ça ne penche pas du côté d'une candidature de Donald Trump. En termes de sécurité et d'équilibre du monde, très certainement qu'un gouvernement Harris serait beaucoup plus prévisible et beaucoup plus favorable au fond aux défenses des valeurs de la démocratie. Et je crois qu'on ne doit pas perdre ça de vue.
L'UDC bernois Manfred Buller a un avis opposé. Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre, tout au contraire.
Je laisse à la politique intérieure des États-Unis le côté impulsif que l'on prête à Donald Trump. Je crois que sur le plan des relations internationales, il a montré qu'il était capable d'avoir une vraie vision de long terme positive pour notamment ne pas lancer de nouveaux conflits armés.
Pour en revenir au sondage Gallup, qui s'est aussi intéressé à l'image qu'auront les États-Unis avec Donald Trump ou Kamala Harris à la Maison-Blanche. 16% des Suisses pensent que cette image se bonifierait avec le républicain aux affaires, mais 59% s'attendent à l'inverse à une péjoration.
RTN 12h27.
Sport.
Ilan Pitié veut s'établir parmi les meilleurs. L'athlète des Hauts-Genevais s'apprête à entamer sa saison de ski de fond au début du mois de décembre à Goms en Valais. À nouveau membre du cadre B de Swisski, Ilan Pitié a travaillé d'arrache-pied durant l'intersaison pour être prêt. Il avait disputé en janvier dernier sa première manche de Coupe du Monde à Oberhof en Allemagne. Et cette saison, le fondeur vaudrusien veut revivre de manière régulière ce genre d'expérience. Mais ce n'est pas la seule ambition que s'est fixée Ilan Pitié.
J'espère pouvoir en faire plus cette année. Après, c'est difficile à dire maintenant, avant le début de saison, parce qu'on ne sait pas le niveau qu'on aura, on ne sait pas le niveau des autres. Donc, c'est difficile à dire, mais je dirais que si tout va bien, j'espère pouvoir décrocher une médaille aux Mondiaux U23. Ça, c'est mon plus grand objectif. Et puis après, le reste, ce sera plus du bonus. Je dirais prendre de l'expérience en Coupe du Monde, d'être plus constant et puis prendre plus de départs. Après, ça dépendra tout de ma forme et puis de mon niveau. Comme j'ai dit, je ne peux pas encore prédire maintenant. Donc, faudra attendre encore un petit moment pour savoir.
Ilan Pitié entamera sa saison lors du week-end des 30 novembre et 1er décembre. Il s'alignera sur la Swiss Cup. Et puis, Union Neuchâtel poursuit son aventure en Coupe de Suisse. Le club de basketball du littoral dispute ce soir son 8e de finale contre le BBC Nyon. Le coup d'envoi de la rencontre est agendé à 19h30 à la salle du Rocher. Votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 13h. Très très bon début d'après-midi à tous.